Jean-Marie Gustave Le Clézio, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve pour ce nouveau roman, Alma, publié chez Gallimard. Et je me disais que cette phrase de votre personnage, Felsen, « Je ne suis pas né dans ce pays, je n'y ai pas grandi, je n'en connais presque rien et pourtant je sens en moi le poids de son histoire, la force de sa vie, une sorte de fardeau que je porte sur mon dos partout où je vais. » Cette phrase, Jean-Marie Gustave Le Clézio peut la reprendre totalement à son compte.
Oui, c'est pour moi une confession parce que souvent on me dit « mais vous ne parlez pas de Maurice ». Et je dis « mais en effet, je parle d'une Maurice qui est imaginaire, qui est un secret de famille, qui est en effet quelquefois assez pesant, un secret assez pesant. Mais c'est quelque chose qu'on m'a donné quand je suis né. Quand je suis né, les premiers mots dont j'ai entendu parler, c'était des mots qui se rattachaient à Maurice. C'était même des mots en créole, parce que mon grand-père parlait en créole. Donc, je ne suis pas né à Maurice, mais je suis né dans un bain mauricien, dans une espèce d'univers clos, qui convenait très bien d'ailleurs à une île. Une île, c'est un univers clos. Mais c'était une île imaginaire, essentiellement. Ouais.
Et alors, ça s'exprimait, ça passait par quoi? Donc, vous avez évoqué le créole, mais peut-être aussi des images, voire des objets qui faisaient encore partie de la famille.
Oui, mon père était... il a quitté Maurice quand il avait 17 ans. Il n'est jamais retourné. Il avait un compte... il avait un mauvais compte avec Maurice, donc il n'avait pas envie de retourner. Mais il avait gardé tous ces petits objets et tous ces souvenirs qui le rattachaient à son île natale. Ma mère elle-même était née de parents mauriciens, donc elle adhérait parfaitement à ce culte imaginaire. Donc nous vivions entourés de cartes, d'objets, de coquillages, des restes qui venaient de là, et surtout des restes qui se rattachaient à ma famille, c'est-à-dire beaucoup de livres. Mon arrière-grand-père était un bibliophile, donc il avait légué, c'est le seul legs que j'ai eu, il avait légué une quantité importante de livres qui tous parlaient de Maurice. Donc j'ai baigné dans cet univers et je croyais que ça m'était particulier parce que j'habitais Nice et quand j'essayais de parler de Maurice, les gens me disaient « Saint-Maurice », on ne connaissait pas Maurice à l'époque. Ils croyaient que c'était un quartier de Nice. Et je ne cherchais pas trop à les détromper. Et j'ai compris tout de suite que c'était une singularité que je devais l'accepter.
Mais alors est-ce que vous-même, comme Jérémy Felsen, vous avez fait ce même parcours de retour vers les origines, vers les racines, et d'essayer de comprendre, de se réaccaparer en quelque sorte cette histoire familiale, cette histoire mauricienne?
Je l'ai fait, mais sans aucune, sans aucune complaisance, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché un paradis perdu, je n'ai pas cru un instant que cet endroit était un endroit merveilleux et qu'il fallait emporter la nostalgie. J'ai considéré que c'était un endroit qui, pour une grande part, était imaginaire pour moi, était fait de mots et de souvenirs et de fantômes. Mais pour une autre part, quand j'ai commencé à retourner, quand j'ai commencé à aller à Maurice, je n'étais pas né, donc je n'y retournais pas, et quand j'ai commencé à prendre connaissance de cette île, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'histoire réelle de Maurice, et en particulier l'histoire du silence, c'est-à-dire l'histoire de toutes ces personnes qui ont disparu à l'époque de l'esclavage. Ce sont des fantômes qu'on évoque rarement à Maurice, et les gens qui vont en balade ou en vacances ne les rencontrent que très rarement.
C'est ce que j'allais dire. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est un livre. Alors, les thèmes sont divers, sont riches, variés, mais c'est un livre sur les traces perdues, une mémoire effacée. Vous écrivez d'ailleurs à un moment donné, l'histoire est un tissu en lambeaux.
Oui, j'ai une grande douleur dans ma vie, c'est que j'appartiens sans appartenir. Si on descend d'une histoire, si on est le dernier maillon d'une histoire, on peut se rattacher à cette histoire. Mais si on est, séparé par le silence, et beaucoup de Mauriciens sont séparés de cette histoire ancienne par le silence, c'est très difficile de la reconstituer. Je compare par exemple avec les Antilles, et je vois qu'il y a une continuité aux Antilles. Il y a une continuité je dirais même entre les descendants de ceux qui ont souffert et de ceux qui les ont fait souffrir. Il y a une sorte de réalité historique qui existe. À Maurice, on a l'impression que c'est en effet, ce sont des morceaux, ce sont de temps en temps des haillons d'histoire qu'on rencontre, mais on n'arrive pas à en faire un tissu. C'est très compliqué. C'est ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre, c'est essayer de recoller certains lambeaux, essayer de les faire se rejoindre, mais je ne suis pas sûr d'y être arrivé.
Mais alors on retrouve aussi quelque chose qui parcourt toute votre œuvre, qui est cette attention aux plus faibles, aux démunis, aux oubliés, aux minorités, aux exploités. D'où vient chez vous cette sensibilité permanente, constante ?
Je suis très heureux de cette part mauricienne en moi, parce que pour une grande part, j'appartiens à un pays qui n'est pas un pays dominateur, qui n'est pas un pays colonisateur, qui n'est même pas un pays qui a fait la guerre. C'est un pays, je ne dirais pas innocent, mais c'est un pays qui est resté en marge de l'histoire mondiale. Et j'ai une grande part de ma propre histoire qui se rattache à ce pays. Et ça me permet peut-être de mieux ressentir ce que ressentent les personnes qui viennent de territoires qui ne sont pas en vue, qui ne sont pas brillants, qui ne sont pas exposés dans l'actualité et qui n'ont pas véritablement de place dans l'histoire. Donc je crois que c'est par ce truchement que je peux ressentir cette proximité avec des personnes qui sont en demande d'existence, en demande d'identité.
Est-ce qu'on peut avoir tout de même la nostalgie d'un lieu qu'on n'a pas connu ? Est-ce qu'on peut ressentir une forme de nostalgie ?
Mon père ressentait très profondément la nostalgie de ce pays qu'il a quitté quand il était encore presque adolescent. Et il a gardé toute sa vie cette terrible nostalgie qui faisait qu'il n'était bien nulle part. Il n'arrivait pas à se satisfaire des endroits où il était. Il a vécu en Afrique, il a vécu en Amérique du Sud. Il n'était jamais satisfait de ces endroits où il vivait. Et moi, je n'ai pas ça du tout. Pour moi, c'est un univers mythique. J'ai grandi dans la culture française. Je suis très heureux d'avoir grandi dans cette culture qui est si riche, qui est multiple, qui est si inventive, si forte. Mais donc je ne ressens pas de la nostalgie pour un pays que je n'ai pas connu, mais par l'intermédiaire de mon père, j'arrive à reconstituer le drame que ça a pu être de se séparer de paysages qu'on aimait, de rivières qui vous enchantaient, où on se baignait. Il y avait un côté Paul et Virginie dans l'éducation de mon père, mais c'était des gens en fin de compte assez modestes, ce n'étaient pas des gens très fortunés. Et donc je ne me rattache pas non plus à la nostalgie d'un pouvoir colonial de l'époque où on vivait dans des châteaux, il n'y a rien de tel. Mais c'est plutôt une sorte de bonheur disparu que j'ai du mal à reconstituer. Je crois que j'ai écrit ça pour ça, pour essayer de reconstituer ce bonheur.
Et avec cette ambivalence qui est frappante, donc entre malgré tout cette espèce de paradis perdu, et l'île Maurice par certains aspects est un paradis, mais aussi ce que vous soulignez tout à l'heure, également un enfer de part des pans entiers de son histoire, et à commencer par celle de l'esclavage. Ça, on le perçoit très bien aussi en lisant Alma.
Oui, c'est un pays très, très disparate. Les gens qui vont là d'aventure ne rencontrent que la superficie. Mais la profondeur est là et on peut être sollicité à chaque instant par cette mémoire enfouie qui ressort si vous allez dans certains endroits et que vous vous souvenez ou vous apprenez que c'est là qu'ont débarqué les cohortes d'esclaves, même après l'interdiction de la traite. Les Anglais ont interdit la traite très tôt, mais les colons français continuaient à importer des esclaves en cachette. Et donc vous marchez dans ce sable noir. Et vous ne pouvez pas ne pas penser que c'est là que ça se passait, qu'ils arrivaient là, et que c'était ce qu'ils avaient devant les yeux, et que ce paysage idyllique, pour eux, c'était un paysage infernal. Ils voyaient les silhouettes des montagnes comme des sortes de démons qui les repoussaient, qui les effrayaient. Et je crois que c'est ce double sens de la géographie, cette double apparence, cette apparence sous la réalité actuelle qu'on doit ressentir quand on va dans un pays comme ça.
Et que vous décrivez très bien dans un passage qui s'appelle La Pomponnette, donc qui fait référence à l'une de ces plages où s'est échoué un bateau chargé d'esclaves et où votre personnage marche sur le sable et voit à un moment donné des algues du goémon de couleur noire. Et puis il imagine, il voit les cadavres de ces esclaves venus d'Afrique.
Oui, il y a eu des très très grands drames au courant de la traite. C'est comme les Anglais interdisaient, donc les bateaux négriers devaient accoster dans des zones dangereuses qui n'étaient pas surveillées par les Anglais. Ils devaient le faire de nuit, et donc il y avait beaucoup de naufrages de ces bateaux avec les chargements humains qui coulaient et que les vagues repoussaient ensuite sur le rivage. Les esclaves étaient enchaînés, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, donc c'est vraiment terrible. Il s'est passé des choses absolument horribles dans ce pays. Et en même temps, c'est charmant, c'est un pays charmant.
Le pays de Paul et Virginie. Alors on retrouve aussi votre souci de la langue, des mots. Non seulement vous citez des espèces d'arbres, de plantes, mais aussi les noms d'esclaves, les noms de ces riches propriétaires qui exploitaient ces esclaves. Et je me disais, on parlait tout à l'heure d'oubli. Finalement, tant que les mots sont là et que l'écrivain est là pour les utiliser, les êtres et les choses qu'il désignait subsistent, non ? C'est peut-être ça la mission, l'une des missions de l'écrivain.
Oui, c'est certainement au départ une sorte de plaisir égoïste de mettre au jour tout ce qui vous constitue, mais petit à petit, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, je voyais qu'il y avait une question qui était posée, et qu'il fallait que j'y réponde, et que ce livre devait répondre à cette question. Que sont devenus ces gens? Pourquoi on les a oubliés? Pourquoi on n'en parle pas? On ne connaît pas leur nom. Les registres, souvent, sont très vagues, parlent de gens selon leurs origines, des gens qui venaient du Mozambique, et des gens qui venaient de la côte est, de l'Afrique. On les désigne comme s'ils étaient des meubles ou comme s'ils étaient des objets, et non pas des êtres humains. Donc oui, c'est très difficile dans un pays comme cela, parce que, en effet, le charme du pays fait qu'on a tendance à oublier. On pense que finalement, il faut passer outre, il faut vivre dans le temps moderne. Mais je crois qu'on ne peut pas vivre vraiment sans avoir cette conscience de ce qui s'est passé, conscience de l'histoire. Et essayer d'entendre les voix du silence qui demandent à être entendues.
Et d'où ce procédé que vous utilisez à plusieurs reprises, d'énumération, de listes, en particulier donc des noms d'esclaves, mais pas seulement, des noms de domaines sur lesquels ils travaillaient. À un moment donné, on a même la liste, alors ça j'ai découvert, j'ignorais totalement qu'il existait autant de variétés de canne à sucre. C'est ça, c'est pour leur assurer une postérité, une mémoire. C'est là où est peut-être la puissance, le pouvoir de l'écrivain.
Oui, ce roman pour moi a commencé aux archives de l'Outre-mer qui se trouvaient autrefois dans ce quartier, je crois que c'est dans le 6e arrondissement, rue Audino. Et maintenant ça a changé, ça se trouve à Aix-en-Provence, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Et longtemps avant même d'imaginer que j'écrirais ce livre, j'allais regarder la liste des noms d'esclaves. Les esclaves qui étaient baptisés tous ensemble, on en baptisait d'un coup plusieurs dizaines à la fois, et les noms étaient reportés. Moi, c'était généralement que des prénoms ou quelquefois les noms d'origine, et donc c'est par les noms que les gens continuent d'exister. S'ils n'ont pas de nom, ils n'existent pas. Et la grande astuce des trafiquants d'esclaves, c'était d'enlever les noms et de donner souvent aux esclaves des noms de bateaux. Il y avait des tas de gens descendants de ces populations qui ont été exploitées, qui portent des noms de bateaux, qui s'appellent Hirondelle ou qui s'appellent La Vaillante. Ce sont les noms des bateaux dans lesquels ils sont arrivés. Donc tous les esclaves qui se trouvaient dans ce bateau portent ce nom. Et c'est stupéfiant de voir ça. Donc ça remet en question tout le fonctionnement, non seulement de la société coloniale, mais de notre propre société européenne. Parce que nous descendons aussi d'esclaves, nous-mêmes. Nous avons, si nous remontons dans le temps, nous avons été des esclaves il y a longtemps, mais nous l'avons été, et on nous a donné des noms. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est décidé. Donc Maurice, c'est en fond, c'est comme une capsule du temps, un endroit qui est arrêté, qui est figé dans une certaine époque.
Quel est votre Alma, Jean-Marie-Gustave Le Clézio? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y en a une?
Je n'en ai pas, mais Alma, ce nom est dans ma famille, parce que ça a été les premiers terrains qu'ils ont cultivés quand ils sont arrivés à Maurice. Donc ça se trouve dans le centre de Maurice. C'est pour ça que j'ai donné ce nom, mais moi, personnellement, je n'en ai pas. Je n'ai pas de domaine. Et je n'ai même pas de ville, je n'ai même pas de village, je n'ai pas de clocher. Je n'ai rien que les livres.
Vous avez peut-être quelque chose, une pierre de Gézier de Dodo? Elle existe?
En fait, c'est un de mes cousins qui a découvert ça et qui me l'a montré, mais je ne l'ai pas. Il en a fait don à un musée.
Incroyable. Il faut peut-être en quelques mots expliquer de quoi il s'agit.
Oui, le dodo, comme la plupart des volatiles, en particulier les pigeons dont il est le voisin, avait besoin de manger des cailloux pour digérer les graines qu'il avalait. Et donc, le dodo étant de grande taille, avalait des cailloux qui étaient de grande taille. Et un de mes cousins, en marchant dans une plantation, a vu cet objet absolument étonnant que j'ai tenu dans mes mains moi-même, qui est comme à peu près de la taille d'une balle de ping-pong, une pierre bien ronde qui a servi au dodo. Donc c'est tout ce qui reste du dodo.
Alors ce dodo, ce pauvre dodo, donc il est là très présent dans ce livre, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Pourquoi l'avez-vous mis là à l'intérieur de ce roman?
Ben, il est disparu, c'est surtout ça qui est à la fois triste et exaltant. Ça a été un des premiers cas où on s'est intéressé à la disparition d'une espèce. Et donc ça remonte à assez longtemps. Le dodo a disparu vraisemblablement au tout début de la présence des Français, à la fin de la présence des Hollandais, c'est-à-dire au XVIIe siècle, en fin de compte. Et c'est devenu le symbole, un peu comme le koala et celui de la disparition des espèces actuelles. C'est devenu le symbole de la disparition des espèces, et ça a été vraiment une disparition causée par les humains, pas accidentelle. Il régnait en maître absolu sur cette île, elle était énorme, mais il n'avait pas d'ennemis, et tout à coup l'arrivée d'une espèce qu'il ne connaissait pas a causé sa perte.
Et alors, j'ai découvert, et j'imagine qu'elle est vraie, l'histoire de ce spécimen qui voyage jusqu'en Angleterre. Et on voit qu'il y a une espèce de malédiction sur ce dodo, puisqu'on n'a même pas réussi sa taxidermisation. Donc aujourd'hui, il n'en reste rien.
Oui, c'est en effet, il a eu des restes pendant longtemps dans un musée londonien. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Il ne reste que des ossements dans quelques musées. Il y en a notamment à La Rochelle. Dans un musée, il y a un squelette de dodo assez complet. Mais ce dernier voyage du dodo, pour moi, c'était un peu le symbole du livre. C'est un voyage de retour, mais qui se termine mal, qui n'aboutit pas. Le dodo est condamné à Maurice, donc il ne pourra pas survivre en dehors. En plus, tous les témoignages de l'époque disent que c'était un animal très sentimental. Et quand on le séparait de son île, il ne pouvait pas survivre. C'était impossible.
Alors, il y a un deuxième dodo dans ce livre. On ne va pas trop en dire, parce que là, il y a presque, j'allais dire, presque une espèce de suspense. Il y a un lien, évidemment, entre Jérémy Felsen et ce dodo. Ils appartiennent à la même famille. Mais pourquoi ce dodo-là a connu cette trajectoire aussi surprenante et là également tragique? Comment ce personnage-là s'est-il imposé dans ce livre, Jean-Marie-Gustave Le Clézio?
En fait, il a existé, et mon grand-père l'a connu sur le port de Nice. Je me souviens, j'avais une dizaine d'années, et mon grand-père revenait de ses excursions sur le port de Nice en parlant de ce vieux, il était déjà assez vieux, ce vieux mauricien qui n'avait plus de visage, et avec qui il parlait de Maurice. Il cultivait une certaine nostalgie tous les deux de leur île natale. Et donc, par la suite, j'ai appris que ça n'a aucun rapport, mais que des personnes de Maurice ont eu l'idée saugrenue d'envoyer un vagabond mauricien rencontrer les vagabonds parisiens. Ça, c'est plus récent. C'est le dodo initial, ce personnage sans visage, c'est quand j'avais une dizaine d'années, donc ça remonte à très loin. Mais le voyageur, le dodo voyageur, qui est donc un clochard, un vagabond qui va visiter les vagabonds parisiens, ça s'est passé il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc j'ai fait rencontrer les deux personnages, enfin je n'ai fait qu'un personnage avec les deux, de façon à raconter le voyage, ce voyage étonnant d'un vagabond mauricien à travers Paris, et les difficultés qu'il rencontre, et en même temps une certaine humanité qu'il découvre en étant au milieu de ces pauvres airs parisiens, et qui finit sa vie dans un asile dans le sud de la France. Donc c'est un itinéraire, c'est un peu semblable à celui du dodo qu'on a voulu expatrier pour peut-être le faire prospérer dans un zoo en Angleterre, mais ça s'est mal terminé. Donc les Mauriciens ne sont pas facilement exportables.
Alors il y a un autre personnage très, très fort dans ce roman, c'est Cristal. Donc là, on est dans l'époque d'aujourd'hui et que rencontre Jérémy Felsen, une jeune fille qui se prostitue. Et je me disais, évidemment, il faut peut-être y voir une espèce d'allégorie d'une autre forme de prostitution à Maurice qui serait celle du tourisme.
Oui, il faut appeler les choses comme elles sont. Il y a un tourisme sexuel à Maurice qui est quelque chose de honteux et d'absolument affreux, parce que c'est l'exploitation d'une jeunesse qui est après complètement déboussolée, dévoyée, qui finit très souvent dans la délinquance, qu'on retrouve après en prison. Enfin, c'est quelque chose d'assez dramatique, que je pense qu'il n'est pas particulier à Maurice, ça existe dans beaucoup d'autres endroits du monde. Mais à Maurice, c'est encore peut-être plus frappant, parce que ça se passe dans cet univers un peu sucré et très, très exotique et donc assez joli, avec des beaux couchers de soleil et une végétation exubérante. Mais la réalité est assez triste et sordide. Et il y a un écrivain mauricien que j'aime bien, qui est Ananda Devi, qui parle justement de ce contraste et de ce manquement dont Maurice est l'exemple.
Aditi, autre personnage, c'est peut-être l'espoir d'une harmonie possible malgré tout.
Oui, il y a un élément à Maurice que la plupart des visiteurs ne connaissent pas, qui est l'élément, qui est la forêt mauricienne, la forêt originelle, qui est magnifique, et étonnante, avec des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, et qui ont réussi à survivre jusqu'à maintenant. Et dans cet espace, il y a la présence assez forte, je trouve, de la pensée indienne. La pensée indienne est assez tournée vers la nature, alors que le monde occidental, pendant très longtemps, a considéré que la nature était à son service. Donc elle devait pourvoir les humains en bois, en énergie, et en gibier. Il y a un espace en particulier à Maurice qui se trouve autour du Grand Bassin, l'endroit où il y a un temple indien. C'est un espace qui véritablement porte la force de la pensée indienne. Ça a été découvert par des aventuriers indiens. Et là, ils ont construit des temples et il y a une espèce de pèlerinage. Donc j'ai voulu qu'Aditi représente cet esprit-là. C'est l'esprit de la forêt et puis aussi la force de l'héritage indien à Maurice qui est admirable. La pratique du yoga, la pratique de la méditation, la communication avec la nature et l'ancienne religion illustrée par la sagesse indienne, les Vedanta, tout ça c'est très fortement présent à Maurice. Et quand vous traversez Maurice, vous voyez les costumes chatoyants et les temples tamouls bariolés, mais vous ne percevez pas nécessairement la pensée que ça implique. Et cette pensée-là fait de Maurice un endroit privilégié de paix et d'harmonie, je trouve.
On va refermer cet Alma et je voulais savoir ce Nobel, 9 ans après, quel sillon, quelle empreinte a-t-il creusé en vous ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Oui, je trouve que c'est un très beau prix, y compris celui qui a été décerné l'année dernière. Je trouve que c'est un prix qui est très audacieux et qui met en lumière des écrivains qui ne seraient pas nécessairement connu de beaucoup de monde et surtout de beaucoup de pays. Donc c'est un prix qui tend à donner confiance dans la littérature. Mais moi, je pense que la littérature étant absolument indispensable, en particulier dans notre monde moderne qui est très technique, ça m'a donné confiance dans la littérature, donc confiance en moi-même. Et de ce point de vue, ça a été vraiment très bénéfique.
Et vous en aviez besoin. L'écrivain doute toujours ?
Oui, parce que la technique, le monde extrêmement technique dans lequel nous vivons, tend à laisser croire à l'écrivain qu'il est une sorte de parasite, pas vraiment nécessaire, pas très utile à la nation ni à la communauté. Et tout à coup, ça lui redonne confiance et il a l'impression qu'il peut peut-être apporter quelques petits changements.
Puis j'imagine que c'est le regard des autres aussi, peut-être, qui a changé.
Oui, enfin, le regard des autres. Moi, j'aime bien surtout l'idée que d'être lu. Je n'aime pas trop l'idée de devenir un objet, de devenir quelque chose qu'on regarde. J'ai plutôt envie d'être lu et critiqué et qu'on me dise « Non, là, il aurait peut-être fallu changer quelque chose. » Donc, j'aime bien cette relation que donne la lecture.
Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio.